VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo devrait être libérée de prison dès demain mercredi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son avocat, Maître Rodrigue Dadjé, après l'annonce de son amnistie par le président Alassane Ouattara. Salué comme un geste fort en faveur de la réconciliation nationale à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Épouse influente de Laurent Gbagbo, président de 2000 à 2010, la dame de fer ivoirienne aura passé 7 ans derrière les barreaux. Elle avait été arrêtée le 11 avril 2011 aux côtés de son mari, vaincu par les forces d'Alassane Ouattara et de la communauté internationale au terme de plusieurs mois de crise suite à l'élection présidentielle au résultat contesté d'octobre 2010. D'abord détenue sans jugement, Simone Gbagbo avait été condamnée en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais en 2017, elle avait été acquittée lors de son procès aux assises à Abidjan pour crime contre l'humanité pendant la crise post-électorale qui avait fait quelques 3000 morts. Un jugement cassé le 26 juillet par la Cour suprême ivoirienne qui a demandé le renvoi de Mme Gbagbo devant une nouvelle cour d'assises. L'amnistie de 800 personnes, dont Simone Gbagbo, entre dans le cadre des mesures annoncées par le président Alassane Ouattara dans un discours à la Nation lundi soir pour l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. L'autre grande initiative est l'annonce de la réforme de la commission électorale ivoirienne, décision saluée ce mardi par plusieurs groupes d'opposition et des organisations de la société civile ivoirienne. À 2 mois des élections locales et 2 ans de la présidentielle, la composition de l'actuelle commission électorale indépendante ivoirienne est jugée déséquilibrée, avec 8 de ses membres représentant le pouvoir contre seulement 4 pour l'opposition. Un avis partagé par la Cour africaine des droits de l'homme qui, dans un arrêt rendu en 2016, a ordonné au gouvernement ivoirien de réformer cette commission, ce que le gouvernement ivoirien n'avait pas fait jusqu'à présent. Au Mali, la Cour constitutionnelle, composée de 9 juges, doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour des présidentielles qui est prévue le 12 août. Par ailleurs, 18 candidats ont dénoncé hier matin ce qu'ils appellent un hold-up électoral par le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour avec 41,42% des voix, selon les résultats officiels provisoires annoncés jeudi soir. Les 18 ont aussi appelé à une grande manifestation ce mardi à partir de 16h, temps universel à Bamako, la capitale. En RDC, toujours pas de candidat de la coalition au pouvoir à moins de 48 heures de la clôture par la commission électorale du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre. Bien que son mandat ait expiré depuis décembre 2016, le président Joseph Kabila, à qui la constitution interdit de se représenter, ne s'est toujours pas désigné un dauphin. C'est dans ce contexte que le président de la Commission de l'Union africaine ainsi que l'Union européenne et les évêques catholiques de la RDC appellent au respect de la Constitution et des droits et libertés de tous les Congolais et aussi à l'application des mesures de décrispation du climat politique prévues par l'accord du 31 décembre 2016, l'accord de la Saint-Sylvestre. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Quatrième à déposer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain, l'opposant Vital Kamerhe a rejoint Seth Kikuni, Jean-Pierre Bemba et Alain Daniel Tshiekomba. Cette liste va être complétée les 48 prochaines heures par Félix Tshisekedi, dont le parti a annoncé le dépôt du dossier ce mardi, Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou qui, eux, déposent mercredi. Ensemble pour le changement, la plateforme électorale de Moïse Katumbi a également annoncé le dépôt de la candidature de son leader bloqué en Zambie qui n'a toujours pas pu accéder au territoire congolais par la frontière de Kasumbalesa. Par contre, pas de nouvelles du candidat du Front commun pour le Congo, la nouvelle plateforme électorale de Joseph Kabila. Le président sortant, dont le dauphin reste attendu, a reçu la semaine dernière à tous les partis et regroupement politique du FCC à qui il avait demandé de lui proposer chacun 4 noms des candidats présidentiables. Interrogé à ce sujet, Lambert Mendéo Malanga, le porte-parole du gouvernement, s'est contenté de dire que le Front commun pour le Congo déposera dans le délai le dossier de son candidat président de la République. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Zimbabwe, libération par un tribunal de Harare ce mardi de 27 militants du parti d'opposition MDC arrêtés par la police la semaine dernière pour avoir fomenté, dit-elle, des violences après les élections, notamment la présidentielle remportée par la ZANU-PF au pouvoir. Le juge Francis Witorini a ordonné la remise en liberté des détenus après paiement d'une caution de $50. Le MDC conteste la victoire du président Emmerson Mnangagwa au scrutin présidentiel et son leader Nelson Chamisa devrait officiellement déposer une plainte en justice cette semaine pour protester contre les résultats du scrutin. Six partisans de l'opposition ont été tués la semaine dernière par les forces de sécurité lors des manifestations de protestation contre la victoire de la ZANU-PF aux élections. Conflit au Soudan du Sud, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué lundi la signature d'un accord de partage du pouvoir dans le pays, enjoignant les belligérants à le finaliser rapidement pour mettre fin à près de 5 ans de guerre civile. Dans le cadre du nouvel accord, le chef rebelle Riek Machar aura le poste de premier vice-président. L'accord prévoit aussi la formation d'un gouvernement de 35 ministres et un parlement de 550 députés. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Mohamed Nagui, le rédacteur en chef de Soudan Tribune.
D'abord, cet accord concerne la gouvernance et le partage de pouvoir. Et donc, c'est une partie au revoir et remettre aux mises à jour, j'allais dire, pour des accords de paix qui ont été signés il y a 3 ans, en 2015. Donc, c'est une partie d'un accord global pour le paix dans le Sud-Soudan. Il s'agissait donc de partage des pouvoirs.
Il y a quelques semaines, un autre accord avait été signé, mais les rebelles l'avaient finalement rejeté, estimant que le président Salva Kiir aurait trop de pouvoir.
Il y a quelques semaines, on a signé les arrangements de sécurité, c'est-à-dire le security arrangement.
L'aspect sécuritaire.
C'est-à-dire par rapport au cessez-le-feu, par rapport à l'intégration de l'armée rebelle dans l'armée nationale, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais dans le même temps, on a parlé de partage de pouvoir et c'est là où les rebelles, ce sont pas les rebelles, mais si vous voulez, là il s'agit de l'opposition dans son ensemble. Il y a une partie de l'opposition qui sont des factions armées, une partie de l'opposition qui sont de l'opposition politique, c'est-à-dire des partis qui portent pas des armes. Le premier accord a été signé et ça a été finalisé.
Le Soudan du Sud est un pays pauvre. Pourquoi autant de ministres et plus de 550 députés.
C'est pour plaire à cette multitude de factions, oppositions et rebelles, vous savez. Mais c'est ça le problème.
D'accord.
Le problème ici, on a un pays très divisé et donc les gens se basent surtout sur des bases ethniques, c'est-à-dire forment des partis politiques et sur des bases ethniques, etc. Parce que l'identité et l'appartenance, le tissu national n'est pas encore totalement prêt, n'est pas là. Donc les gens s'appuient sur des structures tribales et autres, chacun prétend se représenter et n'est pas représenté par tel ou tel parti.
Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Soudan Tribune, joint à Paris. Retour en RDC maintenant, les autorités congolaises ont annoncé le début demain mercredi d'une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays. Le point avec Lionel Gaïma.
Le docteur Baté Njokolo, directeur général de la lutte contre la fièvre Ebola au ministère de la Santé, a déclaré que la vaccination commence demain mercredi. Plus de 3200 doses sont disponibles et le vaccin sera administré surtout au personnel médical en première ligne dans la lutte contre l'épidémie qui touche Mangina, une localité à 30 km de Beni dans le Nord Kivu. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis samedi. À cette date, le ministère de la Santé avait fait état de 43 cas, dont 13 confirmés, et de 33 décès, dont 3 parmi les cas confirmés. Cette nouvelle épidémie à virus Ebola est signalée près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, une région qui connaît une forte présence de mouvements rebelles. Il y a seulement quelques jours, le ministre de la Santé avait annoncé la fin d'une autre épidémie qui a tué 33 personnes dans la région de Mbandaka, dans le nord-ouest du pays.
Actualité américaine pour terminer, les sanctions des États-Unis contre l'Iran sont entrées en vigueur à 4 heures temps universel aujourd'hui, marquant une nouvelle escalade entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a rejeté l'appel à dialoguer de l'administration Trump. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.